Buenos Aires est la plus européenne des villes d'Amérique latine. Cosmopolite et éclectique, complexe et déroutante, elle cultive les contrastes. Entre les séismes économiques de 2001 et de 2014, entre le passé douloureux et à fleur de peau de la dictature, Buenos Aires revendique ses maires de la place de Mai. De Palermo à la Boca, de la place de Mai à Núñez, le rêve argentin est posé là, dans le chaos vital de ses artères, de ses milongas, de ses tangos, de son asado, de son football. Buenos Aires, le droit de mémoire, un documentaire de Vinciane Meuchler et Michel Bernard. Une chanson de Benjamin Biolay nous guide dans la ville à la syntaxe débridée, au rythme de ses résonances et de ses silences. D'abord, Plaza de Mayo, le cœur de Buenos Aires, la place des mères, la place de toutes les manifestations, la place qui est tout un symbole. Puis, le nord de la ville, à Núñez. C'est là que se loge la fameuse Escuela de Mecánica de la Armada, l'ESMA. Grand centre clandestin de détention et de torture pendant la dictature militaire, devenu aujourd'hui musée de la mémoire et haut lieu culturel. Buscarita Roa, ce petit bout de femme de 78 ans, a passé la moitié de sa vie à rechercher son fils José, sa belle-fille ainsi que sa petite-fille disparue lors de la dictature militaire. Tous les jeudis, elle a défilé sur la place de Mai avec les autres abuelas afin de réclamer la vérité sur les disparitions des enfants. 22 ans plus tard, elle est la première grand-mère à avoir récupéré sa petite-fille, Claudia Victoria, enlevée par une famille de militaires.
En el año 78,
en 1978, mon fils, sa femme et ma petite fille, qui avait 8 mois à l'époque, disparaissent. Mon fils à l'époque était étudiant et affichait des idéaux politiques. L'Argentine venait d'être frappée par un coup d'état militaire qui avait provoqué la disparition de 30 000 personnes. 500 enfants ont été dérobés à leurs parents et lorsque mon fils et ma belle-fille ont disparu, nous sommes allés à Plaza de Mayo. Et c'est là que petit à petit, les mères ont commencé à se réunir sur la Plaza de Mayo pour y dénoncer les disparitions. Alors, ce furent bien sûr des moments extrêmement durs. Nous demandions la justice, nous sortions et déambulions tous les jeudis. Les premières mères sont descendues pour manifester sur la place des Maillots. Elles portaient un foulard sur la tête de manière à ce qu'on les reconnaisse. Et elles manifestaient tous les jeudis. Nous sortions, nos rangs gonflaient, nous étions de plus en plus nombreuses parce qu'effectivement les disparitions continuaient. Et les gens venaient nous voir, certains étaient curieux, d'autres avaient peur, parce qu'effectivement à l'époque, il y avait peu d'informations, et toutes les informations qui étaient publiées à l'étranger. Les gens commençaient à parler, ont commencé à diffuser ces informations à l'étranger, mais ici, en Argentine, le silence pesait, on ne savait rien, et les réunions que nous organisions, qui nous permettaient de discuter, de définir notre stratégie, notre politique de recherche, nous les tenions, par exemple, dans une pâtisserie. Nous nous réunissions dans une pâtisserie à deux ou trois et nous prétendions fêter un anniversaire, ce genre de prétexte. Nous utilisions un langage codé de manière à ce que les gens ne sachent pas de quoi nous parlions. Nous nous réunissions donc, dans des pâtisseries, au domicile d'une grand-mère ou l'autre, et dans d'autres lieux privés, et nous organisions les choses de cette façon jusqu'au jour où nous sommes parvenus à louer un petit local dans lequel nous avons installé nos bureaux. Et à partir de ce moment-là, nous avons commencé à travailler de façon plus structurée. Nous nous sommes dotés d'une présidente, d'une secrétaire. Et voyez ici cet endroit qui est notre bureau et qui nous a permis de travailler de façon plus sérieuse, c'est-à-dire que nous pouvions fréquenter cet endroit tous les jours, nous pouvions nous réunir, réfléchir, discuter, voir ce que nous pouvions faire, jusqu'à ce que certaines décident que l'heure était venue de voyager, d'aller à l'étranger, d'expliquer ce qui se faisait, ce qui se passait, parce que chez nous, nous ne pouvions pas le faire. Nous devions envoyer ce qu'ils appelaient les habeas corpus, je ne sais pas ce que vous savez ce que c'est ces habeas corpus, c'est en fait un mécanisme en vertu duquel nous envoyons des lettres à une boîte postale, nous envoyons des lettres à nos enfants. On nous disait que ces lettres allaient leur parvenir, mais bien évidemment ça n'a jamais été le cas, au contraire, il est évident que ces lettres n'ont jamais atteint leur destinataire, la justice ne nous écoutait pas. À l'époque, la justice tenait les rênes du pouvoir. Et au pouvoir, nous avions des colonels, des militaires. Nous ne pouvions rien faire, mais cependant, nous avons recouru à tous les moyens disponibles pour lutter, pour dénoncer la situation. Nous avons manifesté, nous avons demandé justice. Nous avons saisi les tribunaux, dans certains cas, nous avons passé les commissariats au peigne fin, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour que le monde sache, quelle était l'étendue de notre désespoir. Moi, je pense que rien ne peut être fait seul, que seul on ne parvient à rien. Nous étions beaucoup à l'époque, bien évidemment, petit à petit, les grands-mères disparaissent, nos rangs deviennent moins fournis. Alors, nous travaillons à l'époque avec solidarité. Oui, effectivement, parce que nous pouvions, grâce à cela, discuter, partager, pleurer ensemble. Nous ne savions que faire. Certaines autour de moi étaient passées par la disparition d'au moins 4 ou 5 personnes. Il y a une femme, par exemple, qui souffrait d'Alzheimer, dont 4 filles ont disparu. 4 filles, leurs 4 maris, c'est-à-dire ses 4 beaux-fils, et son mari à elle. Donc 9 personnes autour d'elle ont disparu. D'autres avaient dans leur famille 3 disparus, 2 disparus, enfin, toute une série de situations auxquelles nous n'avions aucune réponse. Le temps passait et aucune solution ne semblait apparaître. Nous avons, nous, fait montre de persévérance, c'est-à-dire que nous avons poursuivi sans cesse. Des années, parce que cela fait 37 ans maintenant que nous luttons, cela fait 37 ans. Et nous ne savons toujours pas ce qu'il est advenu de nos fils et de nos filles. Nous ne savons toujours rien. Si vous me demandez à moi ce qui s'est passé, où sont mes enfants, eh bien la réponse est je ne sais pas, je l'ignore, nous ne savons pas. On nous a dit qu'on les avait jetés dans le fleuve, qu'on les avait jetés dans la mer, qu'on les avait enterrés dans des fosses communes. On a dit énormément de choses, mais nous ne savons pas où est la vérité. Nous sommes originaires du Chili. Mon fils est arrivé ici 2 ans avant moi parce qu'il avait eu un accident au Chili. Il est tombé du train et a perdu les 2 jambes suite à cet accident. Il avait à l'époque 16 ans. Il était vraiment tout petit. Il était étudiant, il venait de terminer le secondaire. Il avait d'ailleurs décroché d'excellents résultats. Et il avait, à côté de cela, ouvert une petite école pour que les enfants qui travaillaient dans la rue, qui n'allaient pas à l'école, puissent apprendre à lire et à écrire. Parce que le Chili, à l'époque, était un pays extrêmement pauvre. Et l'alcoolisme était omniprésent, c'est-à-dire que les parents buvaient énormément. Alors, si vous allez au Chili aujourd'hui, vous ne reconnaîtrez pas le pays. Mais à l'époque, effectivement, l'alcoolisme était très fréquent. Les populations souffraient de malnutrition, les enfants traînaient dans la rue, n'allaient pas à l'école. Et je ne sais pourquoi, mon fils souffrait énormément de cette situation. Et un jour, il est venu, il m'a dit, écoute, maman, je voudrais faire venir des enfants ici à la maison pour leur apprendre à lire, à écrire leur nom. Est-ce que tu me permettrais de le faire? Et je lui ai répondu, mais écoute, je ne sais pas vraiment où on pourrait les mettre. On pourrait les installer dans la salle à manger. Et petit à petit, je me suis organisée. Je lui ai dit, bon, ben, je vais essayer de trouver des cahiers pour ces enfants. Et donc, avec d'autres camarades à lui, qui avaient également terminé à l'école secondaire, ils ont commencé, soir après soir, à enseigner à ses enfants à lire, à écrire leur nom. Et c'est ainsi qu'est née cette espèce de petite école qui accueillit des enfants qui ont appris à écrire leur nom, le nom de leur papa, de leur maman. Et c'est à cette époque, au moment où il était en plein milieu de ce projet, qu'il a eu cet accident. Il a donc dû arrêter et réfléchir à ce qu'il pouvait faire. Il a obtenu une petite indemnité, une très petite indemnité, mais le chemin de fer lui avait fourni cette indemnité grâce à laquelle il pensait pouvoir partir en Allemagne. Parce qu'à l'époque, l'Allemagne était à la pointe de la production des prothèses et de toutes ces techniques. Donc c'était le pays le plus avancé en la matière. Mais malheureusement, il n'a pas eu suffisamment d'argent. Il a donc décidé de partir en Argentine plus tôt, de manière à pouvoir entreprendre les démarches nécessaires. Il s'est donc rendu à l'ambassade pour y obtenir un passeport et a décidé de partir. Et c'est là que je l'ai vu prendre son billet d'avion, sa valise pour prendre l'avion et partir vers Buenos Aires. Il est allé là s'installer chez des gens que nous connaissions un peu de loin, des gens de la famille où il est resté pendant 2 mois. Et c'est là qu'il a entrepris les démarches lui permettant de suivre un traitement, le traitement qui lui permettrait d'avoir ensuite des prothèses orthopédiques. Il était encore en âge de croissance à l'époque, ce qui veut dire que les os de ses moignons ont continué à pousser. Il a donc fallu l'opérer à 2 reprises de manière à couper ses excroissances osseuses. Il a pu le faire auprès d'un institut, il a fait tout le traitement nécessaire, on lui a installé les prothèses orthopédiques et c'est ainsi qu'il a pu reprendre son travail de militance, qu'il a pu recommencer à faire des choses en Argentine. À côté de compagnons à lui, un groupe qui militait là en Argentine. Il avait 17, 18 ans à cette époque-là. Son traitement était terminé, il avait les prothèses orthopédiques, il n'avait plus besoin de son fauteuil pour se déplacer. Il est entré à l'université pour y étudier la psychologie. Et c'est là qu'il a rencontré sa future femme, une étudiante en psychologie également, qui, elle, aidait des filles qui connaissaient des problèmes, elle les aidait à se laver les cheveux, aux petites tâches quotidiennes. Et c'est ainsi qu'ils se sont rencontrés. Et mon fils s'est lancé dans la lutte pour décrocher une loi permettant à toutes les personnes handicapées de travailler. Moi, j'étais encore au Chili à l'époque, et c'est ainsi que j'ai traversé deux coups d'État, le coup d'État au Chili et le coup d'État en Argentine. Alors lui, après cette lutte, est parvenu à faire passer une loi pendant une phase de transition entre deux présidences. Il obtient l'adoption de cette loi qui permet aux jeunes handicapés de travailler. Et lui, donc, continue à étudier, mais en même temps, il commence à travailler pour une entreprise, du pays appelée Alpargata. Et lui commence à travailler dans cette entreprise, des camarades aveugles travaillent dans des bibliothèques braille, d'autres encore ouvrent de petits commerces ou installent une petite table dans la rue pour y vendre des choses. Et parce que lui considérait que le fait d'être handicapé n'obligeait pas les personnes à devoir tendre la main pour bénéficier de la charité des gens. Alors ils sont menés des actions dans les rues, la Avenida del Libertador que vous connaissez sans doute, une grande avenue où sont descendus les gens en chaise, en fauteuil roulant, avec leur canne d'aveugle ou autre. On l'a arrêté, mais à cette époque-là, on l'a laissé repartir. Mais suite à cela, les disparitions ont commencé, lui a disparu et je me suis, moi, lancée à sa recherche, à leur recherche. Alors, suite à ces 37 ans de recherche, nous sommes parvenus finalement en 2000 à retrouver ma petite fille. Ma petite fille est disparue, elle avait 8 mois. Lorsqu'elle est disparue avec ses parents. Grâce à notre lutte avec les autres grands-mères, notre lutte, notre travail, nous sommes parvenus à retrouver la trace de ma petite fille. Elle avait 21 ans à l'époque. Elle vivait avec un colonel qui l'avait volé dans le centre de détention où elle se trouvait. Et un colonel qui l'a élevée comme si elle était sa fille. Avec sa femme, on ne lui a jamais dit la vérité, on lui avait changé de nom, elle avait perdu son identité et sa personnalité. On est parvenu finalement à la retrouver et cela lui a permis de retrouver par la même occasion son identité. Le colonel et sa femme ont été condamnés et ce fut, à l'époque, la première condamnation pour appropriation illégale de personnes en Argentine. Et cela a jeté les bases de la jurisprudence pour tous les procès suivants. Cela nous a permis de traîner toutes ces personnes en justice et de les condamner par la suite. Alors, ils ont été condamnés à 9 ans et demi de prison, mais ils n'ont pas été envoyés en prison parce qu'ils avaient plus de 70 ans et ont donc bénéficié d'une détention à domicile. Bon, alors, bien sûr, là, ils pouvaient aller chez le médecin, ils pouvaient aller et venir, mais finalement, cela importe peu. Moi, grâce à cela, grâce à Dieu, j'ai pu retrouver ma petite fille. Et elle est là, voilà.
Ella nunca se dio cuenta.
Elle ne s'est jamais rendue compte de rien. Lorsque nous l'avons trouvée, Elle a été assignée en justice. Les juges lui ont montré tous les documents que nous avions réunis avec les photos que nous avions pu trouver et elle lui a révélé son identité. Lui a expliqué qu'elle avait été adoptée par cette famille qui n'était pas sa famille d'origine. En me présentant sa grand-mère qui l'avait cherchée pendant 20 ans et en expliquant également que ses parents avaient disparu. Alors elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait et petit à petit elle nous a expliqué qu'elle a eu le sentiment que le monde s'écroulait sous elle. Elle ne nous a pas parlé à ce moment-là et nous avons fait preuve de patience, nous avons attendu. Et c'est ce que nous faisons toutes les grand-mères. Nous attendons avec énormément de patience. J'ai attendu moi-même 5 ans avant qu'elle me prenne dans ses bras et avant qu'elle m'appelle grand-mère. 5 ans. 5 ans avec patience, avec amour, c'est ainsi que nous agissons ici. Elle nous a dit qu'elle n'avait pas eu besoin de vérifier quoi que ce soit. À aucun moment, elle n'a douté de ce que nous le disions. Effectivement, elle avait énormément étudié et puis elle savait ce qu'étaient ses études d'ADN et les études d'ADN avaient donné un résultat de 99,5%. Mais ça a été dur, évidemment. Ça a été dur parce que, au départ, nous nous parlions comme des personnes qui ne se connaissaient pas. Et pendant longtemps, il en a été ainsi. Mais je l'ai attendu. J'ai attendu qu'elle vienne. Je l'ai invitée chez moi en lui demandant si elle voulait manger quelque chose, si elle aimait ceci ou cela. Et petit à petit, avec tout l'amour d'une grand-mère, je l'ai attendue. Aujourd'hui, elle est mariée. Elle a un enfant, une fille de 6 ans, un autre de 2 ans. Et moi, je les accueille. Je les accueille à la maison. Et je joue avec ses petits. Je fais, en fait, avec ses enfants, tout ce que je n'ai jamais pu faire avec elle.
Voilà donc
mon histoire. Bien évidemment, toutes les histoires sont différentes, mais finalement, le fond est le même. Nous avons tous perdu des proches, des membres de nos familles, nous avons souffert, nous avons lutté, nous avons cheminé, mais nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble et les grands-mères qui ont survécu continuent à lutter. Et aujourd'hui, nous expliquons à d'autres pays, des gens qui viennent de Colombie, du Mexique, qui viennent nous demander comment nous faisons, ce que nous avons fait, nous leur expliquons et nous mettons à profit notre expérience pour leur expliquer comment faire et insister sur cette persévérance. On ne peut pas rester les bras croisés, impossible. Si ça vous était arrivé à vous, eh bien je suis sûre que vous auriez procédé exactement de la même façon. Alors, je peux encore vous dire la chose suivante, c'est qu'en Argentine, ici donc, nous avons trouvé plus de 600 centres de détention clandestins, des endroits qui ont été convertis en centres de la mémoire. Nous avons des centres Carillas del Alma, le parc également, ce parc qui est devenu un parc de la mémoire, où nous avons dressé des stèles portant le nom de nos enfants disparus. Donc il y a maintenant beaucoup d'endroits, un peu partout, qui sont devenus des centres de la mémoire où l'on peut se rendre, où qu'on peut visiter, où il y a des conférences, où l'on peut s'informer de ce qui s'est passé. Des livres sont proposés, on y montre des films, des courts-métrages. Donc nous avons travaillé sur tous les fronts. Nous avons dans ces centres ouverts des centres de documentation, nous proposons des ouvrages, des livres, des films, des conférences. Et nous avons énormément fait au fil des ans. Des ouvrages ont été écrits qui expliquent ce qui s'est passé, qui révèlent la vérité. Vous y trouvez tout ce qui est nécessaire. Et la plupart des criminels ont été traînés en justice et condamnés. Certains, bien évidemment, ont été en prison, d'autres sont morts, mais ils n'ont jamais rien dit. Ils ont été condamnés et, mis à part ceux qui sont décédés, nous avons envoyé tous les responsables en prison et nous continuons à lutter pour la justice. La justice est la mémoire, parce qu'il ne faut pas que cela tombe dans l'oubli. Nous pouvons permettre que cela se reproduise. Et il y a des jeunes à qui il faut expliquer que ce genre de choses ne peut plus jamais se reproduire. Alors moi, la Plaza de Mayo, je n'aime plus m'y rendre. C'est un endroit qui, pour moi, est un lieu de tristesse. Cela éveille énormément de souvenirs malheureux. Je n'aime pas y passer, mais quand il faut, le 25 mars, il faut que nous y allions. Nous descendons avec nos bannières, les photos de nos enfants. Nous descendons sur cette Plaza de Mayo et nous célébrons, nous organisons des cérémonies et nous attirons l'attention des populations. Il faut que cela se fasse.
Cuando uno jode al enemigo porque tiene buen camino. Y si el enemigo chilla, mejor. Si nos dice terrorista, mejor. Si nos dice subversivo, mejor. Porque somos subversivos, creo que sí. Terroristas son ellos. Porque ellos son el terrorismo del Estado. Esto me lo enseñaron mis hijos.
Madres, les folles de mai, comme les ont qualifiées les militaires, ont l'âge de leur souffrance. Il y a parmi elles des anciennes ouvrières, des fonctionnaires, des professeurs, quelques jeunes étudiantes aussi, des militantes et de simples citoyennes. Des touristes prennent des photos. Forcément, la marche est inscrite dans l'histoire. Ces mères qui portent symboliquement les langes de leurs bébés disparus, c'est comme si tu les avais toujours connues. Elles sont tes sœurs, tes résistantes. Tu les aimes, les soutiens, les comprends. Tu pleures avec elles, épouses leur cause, déposes à leur côté ta souffrance, tes doutes, tes désirs, ta révolution, tes deuils aussi. Vous êtes solidaires, unies, fortes, ensemble, parce qu'elles se cramponnent, ne renoncent jamais, bravant les censures, interpellant la méticuleuse impunité des tortionnaires. Vous n'avez pas d'autre choix, me dirais-tu. Prends ce qu'elles te donnent, le partage de leurs émotions dans une même ronde. Et même si votre histoire n'est pas la même, vos souffrances se rejoignent. On vous a confisqué votre avenir. Alors, vous tournez. Sur la Plaza de Mayo, la marche est silencieuse. Tu marches et tu tournes. À l'inverse des aiguilles d'une montre, tu tournes. La chaleur humide et moite de Buenos Aires n'a pas de prise sur toi. Tu aimes la sueur qui glisse, perlée légèrement, douce, sucrée. Ta peau est luisante, tes cheveux collent à ton front. Tu tournes, c'est sans fin. Résister, c'est marcher. La Casa Rosada domine. C'est là qu'est le pouvoir. La place est encombrée de soleil, de hauts palmiers, de pas. Ces petites chaussures de femmes qui martèlent les pavés pour ne pas oublier qu'il y a ici les escadrons de la mort chargés de réprimer toute insurrection. Un terrorisme d'État, une machine bien huilée, sophistiquée, consciencieusement élaborée dans le but de faire disparaître toutes les oppositions politiques. Pendant la dictature, interdiction de tourner à plus de 3 femmes au risque d'être immédiatement arrêtées. Être discrète et patiente. Inlassablement, elle mène la lutte toutes ces années à espérer. Elles n'ont jamais baissé les bras. Pas le moindre effritement, doute ou renoncement. C'est ça, le courage. Marcher sur des territoires censurés. D'autres femmes les ont rejoints. Elles sont passées à 12, marchant face au cercle militaire, défiant le régime du général Bidella, ténue, insistante. À la fin de la dictature, c'est plus de 2000 femmes qui exhibent les photos de leurs enfants ou petits-enfants disparus. Elles scandent l'histoire d'un mensonge. 500 bébés arrachés à leur mère, puis donnés à des gens respectables, des familles de militaires ou de policiers. Un pillage. Una guerra sucia. Une barbarie éclaboussante pour servir un plan systématique d'État. Ces histoires que tu as entendues 100 fois. De très jeunes mères enlevées, emprisonnées, torturées dans les centres de détention clandestins. Il y a de quoi vomir. Et ce n'est pas tout. Si l'une d'entre elles est enceinte, c'est menotté, une cagoule sur la tête qu'elle accouchera, avant d'être séparée de son nourrisson, puis transférée à l'aéroport où un hélicoptère délestera son corps au-dessus du Rio de la Plata. Du travail bien fait. Pas de corps, pas de traces, juste des dépouilles qui se confondent. Tu comprends alors qu'elles étaient vivantes, endormies, mais vivantes. Cette intervention scabreuse possédait un nom. Opération Condor. C'est celui qui laisse des mères désemparées et qui, aujourd'hui encore, endeuille l'Argentine. Il est 16h30. Tu as fini de tourner. La Plaza de Mayo est calme maintenant.
Eduardo Josami impressionne. Cet activiste des droits humains, avocat, journaliste, écrivain, a été détenu pendant toute la période de la dictature. Cet intellectuel ne cesse de militer sous toutes les formes, activer la mémoire de son pays, interroger les relations entre la politique et les arts. Il est directeur du musée de la mémoire Haroldo Conti.
Ce quartier est Núñez. Il est très connu, le quartier, parce qu'il y a un des plus grands, peut-être le plus important, des stades de football. Et près d'ici, c'est le stade de River. Nous sommes à Núñez, mais nous sommes très près de Belgrano et aussi de Saavedra. Et nous sommes sur le bord de la capitale. Nous sommes au Centre culturel de la mémoire, Haroldo Conti, et c'est le nom d'un grand écrivain argentin, des plus grands écrivains argentins du XXe siècle, qui est emprisonné, et puis fait a été disparu par la dictature militaire. Le centre culturel est dans un espace plus grand qui s'appelle l'espace de la mémoire aujourd'hui. Et tout ça, c'est jusque l'année 2004, était l'école de mécanique de l'armée, c'est-à-dire une place où étudier les aspirants à sous-officiers de l'armée, de la marine de guerre, et qui a été transformée en 1976 en une place de un centre clandestin de torture, de disparition de personnes. On pense que pour ce centre ont passé plus ou moins 5000 personnes, et de ces 5000 personnes, ils ont survécu, on pense, 200 peut-être. Maintenant, c'est un centre de mémoire et culture. Nous travaillons pas seulement à mieux connaître ce qui s'est passé ici, à étudier et faire des enquêtes, ayant comme un but apporter aussi des éléments pour le jugement des responsables. Mais surtout, notre tâche plus spéciale au centre culturel, c'est travailler du côté du cinéma, le théâtre, la musique, les arts plastiques et la photographie pour contribuer à ce qu'on peut appeler une culture de la mémoire. On ne commence rien parce qu'il y a beaucoup de temps déjà en Argentine, on a écrit des romans, il y a eu des films, de théâtre, des peintres, des sculpteurs qui ont fait des œuvres sur la période dictatoriale. Un des plus importants et reconnus des peintres argentins, Leon Ferrari, qui est mort l'année dernière. Et un de ses fils a été séquestré, il est disparu ici dans l'école de mécanique de l'armée. Nous avons fait la dernière des expositions de Ferrari était ici dans notre salle d'art visuel. C'est un travail difficile mais très intéressant parce que c'est un moment de la vie politique et sociale argentine très conflictué, beaucoup de débats, des conflits, mais aussi c'est un moment où on peut reprendre beaucoup de choses qu'on croyait que déjà nous ne pourrions pas faire plus. Non? Par exemple, faire justice aux crimes de la dictature militaire, pouvoir penser et débattre certaines questions qui ont à voir avec l'échange, la transformation possible dans notre pays. C'est pas bien sûr le seul endroit où on fait ces choses, mais je crois que nous faisons une contribution intéressante, j'estime. Personnellement, je crois que dans les places où ont été prisonniers les personnes qui ont été séquestrées, torturées, disparues après, c'est important que ces endroits ne soient trop chargés d'interventions, que ce sont des places pour aller voir et penser. Non? On a dit que il y a des murs qui parlent, et je crois que c'est en cette situation. Mais le centre culturel est un endroit où il n'y a pas eu de torture, ni d'interrogatoire, ni d'intention, et c'est une grande place. Et nous croyons que c'est intéressant qu'un et que nous puissions faire ce que nous étions en train de faire maintenant, c'est-à-dire que nous pouvons inviter, que les jeunes viennent, qu'on connaisse ce qui s'est passé. Et c'est plus intéressant que nous ne faisions seulement l'histoire ou le raconter. Il y a, par exemple, nous avons vu que les groupes d'étudiants, des jeunes qui viennent ici, réactionnent d'une forme bien plus active et stimulante quand ils voient, par exemple, une représentation théâtrale sur ce sujet, non ? Ou une exposition de peinture. Alors, il y a peut-être une tension nécessaire entre le devoir, si on peut penser comme ça, de nous référer à ce qui s'est passé ici. Ce n'est pas n'importe quelle place, c'est il y a une histoire qu'il faut, que naturellement, même si on ne voudrait pas le faire, est toujours présente. Non? Mais en même temps, nous croyons que c'est nécessaire une aperture dans les formes d'abordage, un grand pluralisme, une possibilité d'un débat ouvert et libre, parce que sinon, le même travail de mémoire peut être, je ne sais pas si le mot appauvrir existe en français, mais c'est devenir plus pauvre, moins intéressant. Dans la dictature, j'étais prisonnier dans autre place. Ma femme, Lila Pastorisa, a été prisonnière ici et elle est dans le petit nombre de personnes qui ont survécu. J'ai jamais pensé qu'on m'inviterait à faire le directeur de cet endroit. Par moments, j'ai pensé que ça serait difficile, mais maintenant je pense que c'est un travail passionnant et c'est aussi un défi. Et c'est une tâche que les gens de ma génération, ceux qui nous avons participé à la lutte contre la dictature, bon, c'est un devoir, mais aussi ce que nous voulions faire. On peut écrire avec un état d'esprit différent quand on peut voir les choses avec une distance plus grande. Mais aussi, je crois que quand j'ai sorti de la prison en 1983, c'était le moment de le retour de la démocratie en Argentine. Et je voyais comme très important retourner à la vie politique et faire notre contribution à cette difficile tâche de reconstruire un pays démocratique. Et j'ai parlé plus d'une fois sur le thème de la prison et ce que nous avions vécu, mais c'était surtout en une visée de dénonciation. On réclamait le jugement des responsables et c'était, au moins je sentais comme ça, mais je crois que beaucoup de gens pensaient le même, c'était la première tâche, était obtenir justice. Après avoir déclaré à la justice comme témoin et avoir vu qui ont été condamnés, les responsables d'une des prisons où j'ai été, parce que j'ai passé pour plusieurs, mais de la prison de La Plata, 60 km de Buenos Aires, qui a été où ont tué des prisonniers qui étaient dans mon pavillon, je crois que j'ai senti un état d'âme, d'esprit différent. C'est le moment de revenir sur cette histoire, mais d'un point peut-être plus personnel. Du point de vue politique, je dis plus ou moins le même que je l'ai dit avant, mais je crois qu'il y a une manière, vous le direz après avoir lu ce texte, plus réflexive. J'ai dénoncé tout ce que je devais dénoncer, et maintenant je crois que c'est intéressant, peut-être pour les gens qui veulent connaître mieux ce qui s'est passé en Argentine, parler aussi des relations avec nos familles, de les amitiés qu'on a fait pendant la prison, ce que nous lisons quand nous étions en prison, ce que nous pensions du futur du pays en ce moment difficile. Je crois que, bien sûr, c'est un livre qui n'est pas un roman qui est très qu'on puisse lire sans se faire beaucoup de problèmes. Et c'est une histoire qui est inévitable, parler des gens qui ont été, qui ont souffert, des gens qui ont mort, des crimes que se sont commis en ce pays. L'objectif que je m'ai posé peut-être a été bien proche d'être accompli. Quand il y a des gens qui me disent « Oh, j'ai lu le livre tout rapidement et c'est pas un livre très dur. Il parle des choses dures, mais tu as une manière de le raconter bien plus, pas seulement réflexive, sinon même comique. » Je dois reconnaître que même quand je ne me posais pas la tâche d'écrire le livre immédiatement, pendant ces 30 années, ou un peu plus, je pensais toujours. D'une ou d'autre manière, on était... La prison, il y a beaucoup d'anecdotes de la prison. Maintenant encore, je sens que sur la forme que je me conduis, sur les choses que j'aime manger, sur la manière comme je me relationne avec mes amis. Bon, il y a une marque très forte de cette histoire. Alors, je sais que je dois toujours être accompagné par cette expérience de la prison. Et je pense que j'ai pu la raconter dans ce livre avec un état d'esprit que j'aimerais que pouvoir tenir toujours, c'est-à-dire c'est pas un... Il y a un peu de la haine nécessairement contre Videla et tous ces monstres que nous avons eu dans la dictature, et aussi contre beaucoup d'autres gens qui ont fait possible cette dictature, mais de toute expérience en la vie, on peut récupérer des choses positive, non? On pourrait dire que toujours dans une autre occasion, il y a eu beaucoup de gens qui ne l'ont eu. Mais afortunément, l'histoire continue. Il y a une situation politique aujourd'hui d'un pays qui est conflictué, particulièrement ces jours derniers sont de certaines confusions. Il y a déjà quelques années une situation politique conflictive, mais c'est curieux que cette situation conflictive se donne dans un moment où l'Argentine a fait des transformations très importantes et a initié un procès de justice que pendant plus de 20 années la démocratie n'avait pu aborder ou n'avait voulu, dans le cas de quelque président. Je pense que peut-être l'image que nous donnons aujourd'hui au monde est cette première d'un pays avec des grands conflits et confusions. Mais sans doute cette image n'est pas absolument fausse. Mais je crois qu'il y a aussi l'image d'un pays qui a vécu de transformations notables, pas seulement en relation aux droits humains et au jugement des responsables de la dictature. Ici, par exemple, en ces années, on a avancé notablement dans la reconnaissance de la diversité sexuelle. Notre souci principal en ce moment-là, c'est que nous voudrions penser que les années prochaines, ce procès pourra continuer. Non, seulement ma place dans ce centre. Moi, j'ai déjà 7 ans comme directeur du centre culturel. Jamais j'ai passé un temps si long dans une fonction publique. Mais ce que je crois que c'est important et continuer, c'est cette volonté de mémoire et cette compréhension de l'importance de l'apport de la culture dans ce procès. Et bien sûr que dans un pays si conflictué, quand la lutte politique est si dure, quelquefois c'est difficile d'avoir la prédisposition pour écouter toutes les voix, pour avoir un critère pluriel. Mais en mon cas personnel ici au centre culturel, je crois que nous faisions toujours un effort en cette direction. Bien sûr, dans ce pays, dans les années 80 par exemple, quand la démocratie a retourné en 1983, les années suivantes, les jeunes ne pensaient pas à la politique. Il y avait une histoire de terreur, de frustration. Les gens de ma génération avaient perdu une bataille pour la justice, pour le socialisme, comme on pensait à ce moment. Et les enfants, les fils de notre génération pensaient que la politique était une histoire de, en le meilleur des cas, une histoire de douleur et plusieurs fois, simplement que c'était une forme de perdre le temps. Et maintenant, je crois qu'en Argentine, il y a une lutte politique très forte parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent sérieusement la politique. On peut voir des centaines et centaines de milliers de jeunes dans tout le pays qui sont voués à la politique, qui ont un compromis très fort. Et bien sûr que les choses sont toujours différentes à comme on les a imaginées. Nous ne sommes pas au paradis, je l'ai bien clair, mais je crois que c'est un moment très important parce qu'aujourd'hui on peut tout penser en Argentine, tout discuter et on peut faire quelque chose que je pense que c'est important. Pour la mémoire, nous sentions un compromis avec la mémoire. Mais j'aime mieux ce qu'il dit un historien catalan qui s'appelle Ricard Vignes, qui a travaillé sur les prisonnières politiques du franquisme et d'autres questions, qui parle du droit à la mémoire. Ce que lui critique au gouvernement espagnol aujourd'hui, c'est qu'il ne reconnaît pas les droits des Espagnols à la mémoire. Et c'est ça aussi, les Argentins ont droit à la mémoire, Et c'est une tension intéressante entre le droit et le devoir. On peut pardonner. C'est plus difficile pardonner à des gens qui ne demandent pas pardon, qui sont fiers encore de ce qu'ils ont fait. Je crois que c'est plus facile pardonner après qu'on a fait justice. Et c'est à ce point nous sommes ici, en Argentine.
Buenos Aires, le droit de mémoire, un documentaire de Vincent Muchler et Michel Bernard. Interprétation et traduction, Béatrice Crabbé. Montage, Michel Bernard. Mixage final, Christian Copin. Texte de Vincent Muchler, lu par Mélissa Léon Martin. Une production Unité Nomade. Un grand merci à Hannibal et Marlise Josami, à Adriana Zanin et bien évidemment à Benjamin Biolay.